Le jardin de la résistance. C'est le message du titre du dimanche 7 juin. Je voudrais vous lire l'évangile de Matthieu, chapitre 26, les versets 36 à 56. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloigne pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, et veillez avec moi. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et il pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qui trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et trouva encore endormis car leurs yeux étaient appesantis. Et il les quitta et il s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis, il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. » Aussitôt s'approcha de Jésus et il dit, « Salut, Rabbi !» Et il lui donna un baiser. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit la main et il tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ?» À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme auprès un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, en enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les Écritures des prophètes soient accomplies. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Cette année, j'ai décidé de faire un peu de jardin. Rien de trop difficile, je vous rassure. Un plaisir de voir les plantes pousser, c'est beau de s'asseoir et de voir ce que nous avons planté et l'œuvre de la nature qui se met en place avec ce petit jardin. Jésus connaissait un jardin, le jardin de Gethsémané à Jérusalem. Jésus n'allait pas voir les plantes pousser dans ce jardin, mais ce jardin va devenir le jardin de la résistance et de l'agonie. Résistance avec ses disciples, résistance aussi avec celui qui allait le trahir, Judas, et un moment de lutte intense, comme je viens de le lire dans le texte. Dieu m'a accordé deux fois d'aller en Israël, et j'ai à chaque fois eu l'occasion de visiter le jardin de Gethsémané. Aujourd'hui, ce site est sous la responsabilité de l'Ordre catholique des Franciscains. Proche de la route, dans le centre-ville de Jérusalem, il se présente sous la forme d'un agréable jardin, avec quelques oliviers centenaires qui ne sont pas de l'époque de Jésus, comme certains le disent. Il y a aussi une basilique qui est appelée l'Église des Nations, mais elle est aussi appelée la Basilique de l'Agonie. Elle fut construite en 1922 et finie en 1924 par 16 pays qui ont collaboré à sa construction. Pour Jésus, le jardin de Gethsémané fut un endroit non de repos, mais de lutte. Regardons ce qui s'est passé dans ce jardin. Deux choses importantes se sont passées. Tout d'abord, une soumission. C'est les versets 36 et 46. Et ensuite, une arrestation. C'est les versets 47 à 56. Plusieurs événements se sont passés au cours de cette soumission. Premier événement. Le jardin de Gethsémané fut un endroit de tristesse et d'angoisse, comme nous le rappelle le verset 37. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Gethsémané veut dire pressoir à huile. C'était un jardin à l'extérieur des remparts de Jérusalem, un peu isolé sur le mont des Oliviers, où Jésus avait l'habitude de se retirer avec ses disciples. Luc nous en parle ainsi que Jean. Comme le texte nous le dit, Jésus laissait 8 disciples à l'entrée du jardin. Il prit Pierre, Jacques, Jean, pénétra un petit peu plus loin dans le jardin. C'était la troisième fois qu'il prit ses 3 disciples avec lui. La première fois, cela a été pour accompagner sur le mont de la Transfiguration. La deuxième fois, c'est avec Jaïrus, il ressuscita sa fille. Luc 8 nous en parle. Et puis maintenant dans le jardin de Gethsémané, où Jésus voulait qu'il veille et qu'il prie avec lui. Jésus allait entrer dans une période difficile, et la présence de ses quelques disciples devait être pour lui un encouragement et un soutien. Les mots utilisés pour décrire l'angoisse du Seigneur sont très forts. Cette expression d'une grande lutte intérieure devant les horreurs, non pas de la mort physique, mais de la séparation d'avec son Père. Paul va le rappeler à l'église de Corinthe. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Les autres récits confirment l'intensité de sa douleur. Dans l'évangile de Matthieu, verset 39, il nous est dit que il se jeta la face contre terre. Dans l'épître aux Hébreux, il nous est dit qu'avec des grands cris et avec des larmes, et enfin dans l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 44, il nous est dit qu'il transpira des grumeaux de sang. Il est impossible pour nous de comprendre les souffrances qu'éprouva notre Seigneur face à son avenir là. Par contre, nous pouvons ici apprendre de lui comment réagir face aux moments d'angoisse que nous pouvons vivre dans notre quotidien. Jésus pria, Dieu l'exauça. non en lui ôtant la coupe, mais en lui donnant la force de la boire. Première leçon pour nous aujourd'hui. Lorsqu'on remet un problème au Seigneur, ou bien il nous l'enlève, les chardes, ou bien il nous donnera la grâce de la supporter. C'est exactement ce que Paul a fait. Il a supplié le Seigneur de lui enlever une écharde, et Dieu ne lui a pas enlevé, il lui a dit « Ma grâce te suffit ». 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 9. Deuxième événement qui s'est passé dans le jardin de Gethsémané. Gethsémané fut un endroit de lutte pour Jésus. Le texte nous dit verset 38, verset 40 et verset 41, « Veillez avec moi ». Il dira aussi à ses disciples, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi, veillez et priez. Dans sa tristesse, le Fils de Dieu désirait le secours et la communion avec ses disciples. Il ne l'a pas obtenu. Pierre, qui s'était déclaré prêt à mourir pour son maître peu de temps avant, était incapable de veiller une heure avec lui. La fatigue et les événements l'avaient mis en repos. Trop souvent, elle devient une excuse à l'infidélité. Veiller, c'est résister à l'envie de s'assoupir dans l'indifférence et la résignation. Troisième événement dans le jardin de Gethsémané. Gethsémané fut un endroit d'une coupe. Verset 39. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Seul Jésus pouvait boire cette coupe. Pour comprendre cette prière, il est nécessaire de déterminer ce que signifie la coupe dont parle le Seigneur. Elle ne doit pas être interprétée comme la mort prématurée infligée par Satan avant son heure, car cette coupe vient du Père, nous est dit Jean chapitre 18, verset 11. Et Christ a donné volontairement sa vie, Jean chapitre 10, verset 18. Cette coupe est celle de la colère de Dieu, qu'il but à notre place. Jésus ne priait pas pour échapper à cette mort. Il priait, la prière de Gethsémané est plutôt un cri de répugnance devant les horreurs qui attendaient le Seigneur. La seule solution au problème du péché dans le monde se trouve dans la mort du Christ. Quatrième événement, le jardin de Gethsémané fut un endroit de volonté. Verset 39, je vous ai dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La sévérité de l'épreuve ne fit pas dévier le Seigneur dans sa détermination à faire la volonté du Père. Cette résolution, plus que tout autre trait de caractère, marque l'esprit de Jésus. La meilleure preuve d'un cœur en accordant avec le Maître, ce ne sont pas les sentiments de joie sublime, mais une volonté morte à ses propres intérêts afin d'obtenir celle de notre Seigneur. L'attitude d'un serviteur de Dieu est des fruits de l'esprit les plus importants et les plus difficiles à cultiver. Une autre leçon pour nous aujourd'hui. Chaque jour, le chrétien doit dire dans son cœur, non pas Seigneur ce que je veux, mais ce que tu veux. Est-ce notre prière pour nous aujourd'hui? Sixième événement dans le jardin de Gethsémané. Gethsémané fut un endroit de combat, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus identifie ainsi la cause de la tentation et la manière de l'affronter. Les chrétiens se trouvent au centre d'une bataille incessante entre la chair, qui est dominée par le péché, et l'esprit, qui est sous l'influence de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Il est appelé à crucifier la chair avec ses passions et ses désirs, à marcher selon l'Esprit. Galates chapitre 5, verset 24. La chair, selon la Bible, n'est pas le corps, mais l'ensemble des habitudes charnelles formées dans un corps non encore chrétien. Chacun est tenté lorsqu'il est attiré et sollicite ses désirs personnels. Selon Jésus, veiller, c'est préparer le cœur à résister à la tentation, et par la prière, on obtient de Dieu la force pour y résister. Deuxième chose importante qui s'est passée dans ce jardin de Gethsémané, c'est là une arrestation. Entre les versets 47 et 56. Jésus savait que Judas et les officiers étaient proches. Il réveilla donc les disciples endormis et les prépara pour que ce qu'il devait arriver. Le fait que le groupe de soldats et les gardes du temple portaient des armes et des lanternes montre que Judas n'avait pas vraiment compris le message de Jésus. Judas pensait qu'il devait le chercher dans le jardin et repousser l'attaque des disciples pour pouvoir l'arrêter. Mais Jésus vint à eux et se livra calmement. Deux faits se sont passés dans l'arrestation de Jésus. Verset 48. Un baiser inutile. Premier fait. Judas a donné un baiser pour trahir Jésus, car Jésus donna lui-même sa vie à ses soldats. À un moment donné, quelle tragédie de voir comment Judas méprisait tout ce qu'il touchait. Son nom signifie « louange », d'après les traductions de l'épître dans la Bible. Et pourtant, qu'il appellerait encore aujourd'hui son fils Judas. Je pense, et j'en connais pas, de personne qui appellerait son fils Judas. Pourtant, le nom signifie louange. Il n'a pas trop été une louange dans cette situation. Il utilisa le baiser comme une arme et non comme un signe d'affection. À l'époque, il était courant pour les disciples d'embrasser leur maître, mais dans ce cas-ci, ce n'était pas un signe ni de soumission ni de respect. Le verbe grec indique que Judas l'embrassait Jésus plusieurs fois. Deuxième fait qui s'est passé au cours de l'arrestation de Jésus, c'était une épée inutile, verset 51. Un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et il tira son épée, et il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Le disciple, qui dans son zèle essaya de défendre son maître, n'était pas nommé dans l'évangile de Matthieu. Par contre, Jean le nomme. C'est l'apôtre Pierre qui tira son épée et qui coupa l'oreille du serviteur. Les intentions de Pierre s'avèrent évidentes. Il comptait porter un coup mortel au serviteur et il rata de peu pour lui emporter son oreille, qui fut guérie par le Seigneur. Matthieu ne le dit pas, mais Jean le dit. L'acte de Pierre fait avec une bonne intention compromettait sérieusement les positions de notre Seigneur, et il fut aussi guéri ce serviteur. Jésus lui dit même à Pierre, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Jésus refusa la violence de Pierre, pour trois raisons. Il n'en avait pas besoin. Le texte nous dit que Jésus aurait pu appeler 12 légions d'anges, ce qui fait 72 000 ange qui aurait pu venir défendre la cause de notre Seigneur, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. La vengeance appartient à Dieu et non aux chrétiens. Cela nous est rappelé dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, versets 17 à 21. Laissons Dieu agir dans nos vies. Dieu peut envoyer 12 légions d'anges dans nos situations les plus difficiles dans notre vie. La violence engendre la violence. Elle ne résout rien. L'épée doit être restée à sa place. Nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, nous est dit dans la parole de Dieu. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. L'histoire nous montre aussi, malheureusement, que ceux qui ont pris l'épée pour la cause de Christ, les croisades, dans le Moyen-Âge, malheureusement, beaucoup de personnes sont mortes sur le champ de bataille. Et troisième raison, il devait en être ainsi, verset 54, c'était selon la volonté de Dieu. L'Écriture devait s'accomplir, nous dit le texte. La souveraineté, l'omniscience et la grâce de Dieu éclatent sur le fond noir de la méchanceté des hommes à l'encontre du Créateur. Le verset 56 nous montre malheureusement la tragédie. Les disciples voulaient tous le suivre, voulaient tous accompagner le Seigneur, voulaient tous mourir pour lui. Verset 56 nous dit, « Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Même Pierre l'a abandonné dans cette situation. Conclusion. Le récit des derniers jours de Jésus révèle une grande solitude. À l'heure de l'angoisse, ses disciples le lâchèrent. Au moment de l'arrestation, tous l'abandonnèrent. Sur la croix, seul, il goûta la colère et l'abandon du Père. Les siens le laissèrent au moment de son plus grand dénouement. Heureusement que le Seigneur n'agit pas ainsi avec nous. Hébreux chapitre 13, verset 5 nous dit, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Chacun de nous doit décider, choisir l'épée ou choisir la coupe, résister à la volonté de Dieu ou tout simplement s'y soumettre. La coupe implique généralement des souffrances, mais ces souffrances mènent toujours à la gloire. Ne redoutons pas la coupe, car elle nous a été spécialement préparée par le Père. Et parfois, quand nous passons par des difficultés, eh bien, le Père, dans sa grande sagesse et dans son grand amour, nous aidera à passer par les moments les plus difficiles que nous avons à passer dans notre vie. Que le Seigneur puisse vous bénir au travers de ce message. Amen.